signé d'Idriss Assouline et de Michel Joseph à la maison.
Bonjour, au micro Idriss Assouline pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Aux États-Unis, ouverture ce lundi de la convention du Parti républicain en Caroline du Nord. Parmi les principaux orateurs de la première soirée, Donald Trump Jr., fils aîné du président américain, l'ex-ambassadrice à l'ONU, l'Indienne américaine Nikki Haley, et le seul sénateur noir républicain, Tim Scott. Ils ont tous loué le bilan du président américain et mis en garde contre les risques que constituerait une éventuelle administration Biden si le candidat démocrate n'était pas vaincu en novembre. Le président Trump a été officiellement investi le même jour comme candidat du parti à l'élection du 3 novembre. Nous y reviendrons dans un instant avec Abdourahman Dia. États-Unis toujours, deux policiers de l'État du Wisconsin ont été suspendus de leurs fonctions et une enquête a été ouverte lundi après qu'un homme noir a été grièvement blessé à Kenosha de plusieurs balles dans le dos devant ses enfants. Une apparente bavure policière qui a déclenché des manifestations ayant opposé pour une deuxième nuit consécutive protestataires et forces de l'ordre ainsi que l'imposition d'un couvre-feu local. Il y a 3 mois, George Floyd, un autre Africain-Américain, est mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis, l'origine d'un mouvement historique de protestation contre le racisme. Au Mali, la junte au pouvoir depuis une semaine, les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi sans accord. Nous y reviendrons plus en détail en seconde partie de cette édition avec Kassim Traoré. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est sorti lundi des locaux de la police où il a été interrogé pendant une semaine sur des soupçons de corruption sous sa présidence, mais il n'est plus totalement libre de ses mouvements selon son avocat. Sa situation actuelle confirme sa disgrâce progressive sous l'actuel président Mohamed Ould Cher El Ghazouani, qu'il avait lui-même désigné comme son dauphin. En Tunisie, le premier ministre désigné Hichem Mechichi a présenté tard lundi son futur gouvernement, le second en 6 mois, composé essentiellement de technocrates et qui doit encore obtenir l'approbation du Parlement. Mais il pourrait être approuvé, dit-on, pour éviter au pays des législatives anticipées. L'OMS doit certifier ce mardi le continent africain exempt de poliovirus sauvage, 4 ans après l'apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par un conflit contre les djihadistes de Boko Haram. Grâce aux efforts déployés par les gouvernements, le personnel soignant et les communautés, plus de 1,8 million d'enfants ont été sauvés de cette maladie, se réjouit l'OMS dans son communiqué publié avant ce rendez-vous historique, étape cruciale dans l'éradication mondiale de cette maladie. La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a annoncé lundi s'être mis en quarantaine dans l'attente du résultat d'un test du COVID-19 après s'être rendu vendredi à une fête où n'avaient pas été respectés les gestes barrières. D'autre part, l'Allemagne déconseille désormais les voyages à Paris et sur la Côte d'Azur et des chercheurs de Hong Kong ont annoncé la découverte d'un premier cas avéré au monde de réinfection par le COVID-19. Au premier jour d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'est dit lundi optimiste à l'idée de voir d'autres pays arabes suivre l'exemple des Émirats arabes unis en normalisant leurs relations avec Israël en dépit des protestations palestiniennes. Les États-Unis ont assuré lundi soir qu'ils étaient engagés avec la Chine à œuvrer pour la réussite de leur accord commercial à l'issue d'un entretien téléphonique entre négociateurs chinois et américains. Prenant le contre-pied des dénégations des autorités russes, L'Allemagne a conclu lundi à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny et exhorté la Russie à juger les auteurs. La suite de nos informations. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump, après avoir été officiellement investi lundi au premier jour de la convention républicaine, s'est dit confiant dans la victoire face à son rival démocrate Joe Biden. La convention républicaine prend fin jeudi avec un discours du président Trump dans les jardins de la Maison-Blanche à Portlandia.
Réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, les quelques 300 délégués républicains représentant les 50 États américains ont sans surprise désigné l'actuel locataire de la Maison-Blanche comme leur candidat. C'est l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays, a lancé Donald Trump au début d'un discours au cours duquel il a vanté son bilan. Il a fait le déplacement à Charlotte au premier jour de la convention républicaine, marquant un contraste avec son rival démocrate Joe Biden, qui ne s'était pas déplacé à Milwaukee la semaine dernière. Mais cette convention sera, comme celle des démocrates, majoritairement virtuelle pour cause de coronavirus. Le vice-président Mike Pence a également été redésigné par son parti comme candidat à la vice-présidence. L'Amérique a besoin de 4 ans de plus de Donald Trump à la Maison-Blanche, a-t-il lancé lors d'une brève allocution. Pour Mike Pence, l'économie et la loi et l'ordre sont en jeu dans cette élection.
Le Sénégal évacue depuis samedi par camion vers le Mali 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, dont le stockage au port de Dakar a suscité des craintes après l'explosion dévastatrice à Beyrouth d'une quantité équivalente. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le nitrate d'ammonium en transit à Dakar pour le Mali est en cours d'enlèvement depuis samedi et se poursuit, a déclaré un responsable du port autonome de Dakar. Il avait sommé la semaine dernière le propriétaire malien de l'enlever le plus tôt possible. L'évacuation en cours de ce produit utilisé comme engrais agricole ou dans le secteur civil des explosifs a été confirmée par le ministère de l'Environnement. L'enlèvement sera terminé d'ici mercredi, a précisé le responsable du port de Dakar, qui borde le centre historique de la capitale sénégalaise, une agglomération de plus de 3 millions d'habitants. Environ 3 050 tonnes de nitrate d'ammonium à destination du Mali, pays enclavé voisin du Sénégal, ont été initialement débarquées à Dakar. Environ 350 ont été envoyés au Mali, mais le pays a fermé ses frontières lors du coup d'État du 18 août. Les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta ont annoncé la réouverture des frontières, même si leurs voisins ont décidé de maintenir les leurs fermées.
En Algérie, un référendum sur une révision de la Constitution, promis par le président Abdelmadjid Tebboune, sera organisé le 1er novembre. L'annonce en a été faite lundi soir par la présidence. Précision de John Lyndon.
À la lumière des consultations du président de la République avec les partis concernés, il a été décidé de fixer la date du 1er novembre 2020 pour la tenue du référendum sur le projet de révision de la Constitution, précise le communiqué de la présidence. Le 1er novembre est le jour anniversaire du début de la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui a eu lieu de 1954 à 1962. Cette décision fait suite à la rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Chorfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Les deux hommes ont évoqué les préparatifs en cours pour l'organisation des échéances électorales programmées, à commencer par le référendum sur le projet de révision de la Constitution. Lors de son investiture en décembre, le président Tebboune s'était engagé à revisiter la loi fondamentale de l'Algérie, modifiée à plusieurs reprises depuis l'indépendance et retaillée sur mesure pour son prédécesseur déchu Abdelaziz Bouteflika. Cette initiative est censée répondre dans le cadre de la nouvelle République promue par M. Tebboune au Hirak, le mouvement de protestation populaire inédit qui exige un changement du système politique en place depuis 1962.
La Minute Éco, John Lyndon.
La Banque africaine d'import-export, après Simbank, a publié lundi ses états financiers non audités pour le semestre clos le 30 juin 2020. Malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les conditions socio-économiques à l'échelle mondiale, la banque, fait savoir le site Financial Afrique, a vu son bénéfice net augmenter de 10% de 137,63 millions de dollars américains en juin 2019 à 150,75 millions de dollars en juin 2020, principalement en raison de la forte croissance des revenus nets de commissions qui ont augmenté de 134%. Le revenu net d'intérêt pour la période a augmenté de 17% pour atteindre 285,71 millions de dollars américains. Le déficit commercial du Sénégal s'est accentué de 40,5 milliards de francs CFA au terme du mois de juin 2020 comparé au mois précédent selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. Ce déficit s'est établi à 134,8 milliards de francs CFA contre un peu plus de 206 milliards de francs CFA au mois de mai 2020. Cette situation est en relation avec la hausse des importations plus importante comparée à celle des exportations des biens, explique la Direction de la prévision et des études économiques.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Après le courrier de la FIFA demandant le maintien de la commission électorale en Côte d'Ivoire, précédemment suspendue par la Fédération ivoirienne de football, cette dernière s'est réunie en comité exécutif d'urgence. La FIF a ensuite annoncé, je cite, le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci, en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision. La commission se réunira ce mardi pour entériner toute décision nécessaire par vote. Pour rappel, le processus de validation des candidatures par la commission électorale avait été bloqué par le secrétaire général de la commission qui a dénoncé des irrégularités et refusé de signer les documents. Les trois prétendants à la présidence de la FIF, Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo, sauront donc bientôt si leur candidature est validée ou non. L'élection, elle, est prévue pour le 5 septembre. Le Parlement suisse a levé l'immunité du procureur général sortant, mis en cause pour sa gestion du scandale de corruption du FIFA Gate, une décision qui ouvre la voie à une procédure pénale. Michael Lauber, qui supervisait les procédures relatives au scandale de corruption qui secoue la FIFA depuis plusieurs années, est soupçonné de collusion avec le président de l'instance, Gianni Infantino, suite à une série de rencontres informelles en 2016 et 2017 avec ce dernier. Acculé par les critiques, le chef du parquet suisse a présenté sa démission fin juillet. Tout en continuant de rejeter les accusations, il quittera officiellement son poste le 31 août. Les patrons du football australien ont présenté leurs excuses à un ancien joueur aborigène, victime de racisme pendant sa carrière dans les années 1970-1980. Après une interview de Robert Muir, dans cet entretien diffusé dimanche, l'ancien joueur du Saint Kilda, 66 ans, témoigne des humiliations qu'il a subies, insulte de ses adversaires, crachat de la foule et même des équipiers qui lui urinaient dessus. Depuis la fin de sa carrière, il a été sans abri pendant de longues périodes et a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Un supporter de Saint-Kilda a monté une cagnotte en ligne après la diffusion de l'interview et qui a récolté plus de 60 000 euros. Ici, en NBA, le meneur des Toronto Raptors, Kyle Lowry, souffre d'une entorse de la cheville. Il est sorti lors de la victoire contre Brooklyn dimanche 150-122 au premier tour des playoffs. Toronto, champion en titre, doit débuter ses demi-finales de la conférence Est ce jeudi contre Boston. Les deux équipes ont respectivement éliminé les Nets et Philadelphie. À 34 ans, Lowry est un des titulaires indiscutables des Raptors. Depuis le début des playoffs, il compile 12,5 points, 7 rebonds et 4,8 passes décisives.
Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel. Le monde au féminin. Une émission. émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, après 3 jours de rencontres entre la CDAO et le Comité National pour le Salut du Peuple, CNSP, il n'y a pas eu d'accord total pour le moment. Les militaires au pouvoir à Bamako acceptent d'alléger les conditions de détention de l'ancien président Ibeka, qui sera gardé dans une résidence de son choix. Il est également libre d'aller se faire soigner là où il veut. La CDAO a garanti qu'il sera amené au Mali en cas de besoin. Le CNSP a accepté aussi que des personnalités détenues seront dans des résidences surveillées. Pour ce qui est des modalités de la transition, les deux parties ont décidé de réfléchir, chacune de son côté, avant une prochaine rencontre. Kassim Traoré nous en dit plus depuis Bamako.
La première demande de la délégation de la CDAO dès son arrivée à Bamako était de voir le président Ibrahim Boubacar Keïta s'enquérir de sa condition de détention et de son état de santé. Cette demande a été acceptée par le CNSP sans difficulté. Goodluck Jonathan, médiateur de la CDAO dans la crise malienne.
Ils ont accepté immédiatement à notre demande que nous ont conduit au lieu où se trouve le président de la République. Et nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, quelle est la voie à suivre à votre avis. Le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire, qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires. Donc, que ce qu'il souhaite, c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans
le. L'autre point de discussion était l'allègement des conditions de détention de Ibrahim Boubacar Keïta et des autres personnes arrêtées. Colonel-major Ismaël Awagé, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple.
Ce point de discussion a été accepté. Il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut. La CDAO a garanti son retour en cas de besoin, donc ça ne fait pas l'objet d'un problème. Le troisième point, les conditions de sécurisation des autres qui sont à notre disposition. On a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé. On va voir un peu comment ça va évoluer la situation.
Pour ceux qui aident la transition, la CDAO veut qu'elle se fasse en fonction de son protocole, avec une durée qui ne dépasse pas 12 mois. Good luck, Jonathan.
ECOWAS will not come and impose the government on the people of Mali.
La CDAO ne viendra pas ici imposer un gouvernement au peuple malien. Le devoir de la CDAO, c'est comprendre à tous qu'il y a un protocole en vigueur et qui régit la région. Donc, j'espère que d'ici 2 jours plus tard, nous ferons savoir de quoi c'est le soutien gouvernemental pour
l'aller.
Le souhait des militaires au pouvoir est de voir la levée de l'embargo sur le Mali, car les populations malienne souffre énormément. Colonel-major Ismaël Louagué, porte-parole du CNSP.
Je répète, tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment, vraiment pour le bien du peuple. Les sanctions, ce n'est pas bon pour nous, surtout pour la population. En ce qui concerne la transition, je le dis clairement, à ce stade, rien n'est arrêté. On a donné chacun nos points de vue par rapport à ce qui peut être la transition ou pas. La décision finale de l'architecture de la transition, de tout ce qui va être fait, ça va être entre nos maliens.
Il faut un civil à la tête de la transition malienne, à défaut d'un militaire à la retraite. C'est ce qu'a expliqué Kala Ankaraou, ministre des Affaires étrangères du Niger.
Parce que c'est plus facile de travailler. Pour certains pays, pour certaines organisations, c'est un dogme. En tant que c'est des militaires en activité, non, et ils se réservent. Et c'est ça que nous créons. Nous sommes dans un pays qui lutte contre le terrorisme. Il y a beaucoup de partenaires qui participent. Si parmi ces partenaires, partenaires-là, beaucoup se sont obligés de se retirer parce que ce n'est pas un civil. Ce serait totalement dommageable pour la poursuite de l'armée.
Les conclusions de Bamako seront les documents de base de la prochaine visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO qui doit se tenir le mercredi prochain à partir de 10h. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, plus de 500 détenus des maisons d'arrêt de N'Djamena et de haute sécurité de Korotoro, dans le nord du pays, ont recouvert la liberté ce lundi. C'est à la faveur d'une grâce accordée par le président Idriss Déby Itno le 10 août dernier, à la veille de son élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Notre correspondant à N'Djamena, André Konmadjingar.
Je déclare lancer l'exécution du décret 1691 du 10 août 2020 portant grâce présidentielle dans les établissements pénitentiaires de N'Djamena et de Korotoro.
Le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus des maisons d'arrêt du Tchad, Matnangar Mbaye Sanavé, rendra effective la libération de 538 détenus des maisons d'arrêt qui ont bénéficié de la clémence du chef de l'État Idriss Déby Itno, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour lui, la grâce présidentielle relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, certes, mais cela ne dédouane pas les bénéficiaires de peines pécuniaires.
Étant entendu que ce pardon, pris pour des raisons patriotiques, ne peut être accordé que par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, nous précisons que la grâce présidentielle ne préjudicie ni aux règles de la récidive, ni aux intérêts des partis civils.
La plupart des bénéficiaires étaient condamnés pour rébellion et faits des terroristes de la secte Boko Haram. Attestation de mise en liberté en main, ils laissent parler leur cœur.
J'ai passé un bon moment en prison. C'est l'insurrection armée, c'est un peu ça. Mais tout compte fait, je suis gratuit, c'est ça l'importance.
J'avais 14 ans quand mon mari m'a trompé pour m'amener dans le terrorisme. Malheureusement, il a été capturé et tué. Moi, on m'a fait prisonnière. Aujourd'hui, je dis merci au président de la République de me faire sortir de la prison après 5 ans. J'ai des parents qui sont ici à N'Djamena. Je vais rester avec eux. Je ne vais plus repartir là-bas.
Parmi les personnes graciées, il y a l'ex-chef de guerre, le général Mahamat Abdelkader alias Babalade, condamné en 2018 à 8 ans d'emprisonnement ferme. Pour son cousin Ben Mourazi Yaya, la libération du général Babalade est un ouf de soulagement pour la famille.
Au nom de la famille, nous remercions le président de la République qui a pensé à libérer Babalade. L'arrestation de Babalade a causé vraiment des difficultés à la famille. Babalade, pour nous, c'est un baobab. Depuis son absence, la famille est un peu déchirée. Les enfants manquent de l'éducation, c'est-à-dire l'école. La famille est prête à pardonner tout ce qui s'est passé sur Babalade, malgré ces années qu'il a fait en prison.
Ibrahim Moussa, secrétaire général du Front populaire pour le redressement parti politique du général Babalade, qualifie sa libération d'un acte patriotique et informe que sa formation politique va s'engager résolument pour la consolidation de la paix et pour l'enracinement de la démocratie pour une bonne gouvernance au Tchad. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h sur 24, sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En République démocratique du Congo, ouverture à Kinshasa, à l'initiative de l'Université de Liège en Belgique, d'un forum de recherche d'un consensus sur les réformes électorales. 12 parlementaires mènent des consultations dans le même sens, mais selon certains observateurs, la coalition au pouvoir ne semble pas enthousiaste. Elie Isango a joint à Kinshasa l'initiateur du dit forum, le professeur Bob Kabamba.
Il s'agit donc d'un forum qui doit travailler sur les options fondamentales de la réforme électorale. Quand on parle de la réforme électorale, ici en République démocratique du Congo par rapport à la législation, il s'agit de deux lois. La loi qui organise la CENI, c'est-à-dire l'organe qui organise les élections, et la loi électorale en elle-même. Vous devez savoir que lorsqu'on en parle des élections, il est important que dans tout processus électoral, avant d'aller dans un processus électoral, il faut que les réformes qui doivent être faites soient, entre guillemets, consolidées et acceptées par tous. Quand je dis tous, ça veut dire la classe politique, mais aussi la société civile et les confessions religieuses dans le cadre de la République démocratique du Congo. Ces réformes visent essentiellement à voir quelle forme d'organe des élections on veut, quel système électoral on veut. En fait, à partir de ce moment-là, lorsqu'on en sait ce qu'on veut, on peut aller dans la phase suivante, qui est maintenant de mettre en œuvre les réformes que tout le monde attend, aussi bien la classe politique que la société civile.
Vous recherchez un consensus, il me semble bien, mais à l'ouverture, à la première journée, les deux grandes formations qui sont en coalition pour gouvernementale, les FCC de l'ancien président Joseph Kabila et les CACH du président Félix Tshisekedi ont brillé par leur absence. Il semble bien qu'ils boycottent.
Je ne pense pas qu'ils boycottent, d'autant plus que je n'ai pas eu de communiqué. Vous n'avez pas lu de communiqué dans ce sens-là où ils parlent de boycott. Ils ont été absents, je pense que c'est lié à une incompréhension, notamment par rapport aux objectifs et aussi par rapport au contexte pour lequel on travaille. Ici, on n'est pas dans le cadre institutionnel comme le pense le FCC. Nous sommes dans un cadre informel qui doit amener à une réflexion et que les réformes doivent véritablement se passer dans le cadre institutionnel. Du côté FCC, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension sur cet aspect des choses-là. D'autre part, par rapport à CACH, il s'agit que je puisse, je pense, pouvoir expliquer correctement ce qu'on est en train de viser, pourquoi on organise cette forum. Mais je dois aussi vous dire que déjà, les formations dont vous faites allusion ont déjà désigné les experts qui doivent venir travailler avec nous pour avancer sur la définition de la philosophie de la réforme électorale, notamment de la CENI et de la loi électorale. Et donc, il s'agit d'une incompréhension que nous allons essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir les rencontrer et pour pouvoir lever ces ambiguïtés. Et d'autant que plusieurs médias ont parlé en disant qu'il s'agit d'un dialogue. Ici au Congo, quand on parle de dialogue, on vise essentiellement la répartition des sièges, répartition des mandats ou répartition des postes ministériels. Or, on n'est pas du tout dans ce cadre-là.
En même temps que vous, il y a d'autres initiatives parallèles. Il y a les groupes des 13 qui parlent aussi du consensus. Il y a d'autres qui avancent des plans à des sorties des crises. Comment voyez-vous que cela aboutisse à quelque chose de commun? Est-ce que ça ne va pas disperser les efforts?
Tout le monde vise la même chose. Tout le monde veut des élections de 2023 apaisées. Ce que nous faisons, nous essayons dans un premier temps de pouvoir arriver à mettre ce qu'on appelle la philosophie de la réforme bien avant que les politiques eux-mêmes vont reprendre pour pouvoir développer et les concrétiser dans le cadre institutionnel.
Le professeur Bob Kabamba, professeur de droit et de politique africaine à l'Université de Liège en Belgique, joint à Kinshasa.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Nigeria, des États du centre et du nord-ouest ont été le théâtre d'une inquiétante escalade d'attaques et d'enlèvements depuis le mois de janvier, a affirmé Amnesty International, qui a recensé plus de 1100 villageois tués depuis le début de l'année. L'ONG dénonce l'inaction de l'État fédéral, des gouvernements locaux et des forces de sécurité qui, selon elle, et je cite, échouent à prendre des mesures efficaces pour protéger les populations. John Linden a joint le professeur Tunde Fatunde de l'Université d'État de Lagos.
Il y a deux facteurs qui vont se répondre pour expliquer l'origine de cette tuerie qui n'est pas acceptable. L'autre situation importante, c'est la mort, la tuerie insensée des membres de la communauté chrétienne au nom du djihad. Bref, le gouvernement est-il efficace, non seulement pour mettre fin aux attaques et existences de djihadistes, mais aussi aux attaques incessantes de la communauté chrétienne.
Alors, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, Muhammadu Buhari avait fait de la lutte contre l'insécurité son cheval de bataille. Jusqu'ici, il n'a pas réussi. S'agit-il d'une volonté politique ou tout simplement il n'a pas les moyens de sa politique?
Il a des moyens, mais sa volonté politique est ailleurs. Je m'explique. Quand il est arrivé au pouvoir, Buhari voulait créer des conditions idéales pour que les peuples des autres parties de la Sierra de l'Ouest viennent s'installer au Nigeria. C'est ainsi que ces peuples, qui sont en réalité des mercenaires et des djihadistes armés, ont tenu la tâche facile pour mettre en pratique leurs intentions, c'est-à-dire s'installer au Nigeria, saisir des fermes, tuer des habitants locaux, et ainsi de suite. Là, il est devenu non seulement incapable, Il est devenu en quelque sorte collaborateur complice des intentions de ce djihadiste. Voilà le problème.
Alors, à votre avis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ces tueries ou tout au moins éradiquer ces tueries et...
Tant que au sein du gouvernement Buhari, il existe des collaborateurs qui sont des mèches avec les djihadistes, la résolution de cette crise n'est pas pour demain. Et le problème, c'est que, enfin, non seulement c'est que, en soupçonnant que si ça continue ainsi, le pays risque de se démembrer.
Le professeur Toudé Fatoudé de l'Université d'État de Lagos au Nigeria. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.